Maseret Moed Katan, résumé du Daf Bet. Donc on commence Maseret Hashem Maseret Moed Katan qui va traiter d'abord la lachot de Chol HaMoed. Et la Mishnah nous dit comme ça. Il est permis pendant Chol HaMoed d'arroser son champ si c'est un champ qui s'arrose à la main et pas à la pluie. Et donc puisqu'il a besoin de l'eau qu'on lui met, on a le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed. Aussi bien Chol HaMoed que pendant la Shemitah aussi, c'est pareil. Aussi bien d'une nouvelle source que d'une ancienne source, on a le droit d'utiliser cette eau pour arroser le champ. Mais on n'a pas le droit d'aller puiser de l'eau, de pluie ou d'un puits, puisque c'est une trop grande fatigue pendant Chol HaMoed. On n'a pas le droit non plus de tracer autour de la vigne, de ces arbres, de la vigne. Il n'y a pas le droit de tracer un creux par terre pour que l'eau rentre là-bas. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, on n'a pas le droit non plus de faire un canal qu'on appelle une amat amaim, qui fait une amat de profondeur, une amat de largeur, et qui mène l'eau dans les champs. On n'a pas le droit de la creuser pendant Chol HaMoed. Mais pendant la Shemitah, c'est une machloket. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, c'est interdit. Selon Chachamim, c'est permis pendant la Shemitah. Et d'ailleurs, pour Chol HaMoed, on a le droit de réparer une ancienne amat amaim. La Mishnah dit encore, il est permis pendant Chol HaMoed de faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui sont les besoins publics, comme par exemple réparer les puits d'eau qui servent à boire. Donc réparer, ça veut dire s'il y a des saletés qui sont tombées, des petits cailloux, tout ça, on a le droit de les nettoyer, de les réparer, de réparer les chemins, de réparer les mikvaot, de faire tout ce que les gens ont besoin, le public ont besoin. On peut aussi faire un signe sur les tombes en mettant de la chaux dessus pour éloigner les gens de la touma. Et d'ailleurs, on peut aussi s'occuper d'enlever les mélanges d'espèces des champs. La Gemara dit que le chidouche de la Mishnah, qui a dit aussi bien d'une nouvelle source que d'une ancienne source, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre une nouvelle et une ancienne, et non seulement, c'est-à-dire pour un champ qui est arrosé à la main, tout est permis, pour un champ qui est arrosé aux pluies, tout est interdit. Même si tu me diras, mais c'est une ancienne source, elle risque pas de s'effondrer, il n'y aura pas une grande fatigue, elle a déjà tracé son chemin, il n'y a rien à craindre, malgré tout, c'est interdit pour un champ qui se suffit des eaux de pluie. Et donc, Chol HaMoed, on n'a pas le droit d'ajouter cette fatigue-là. La Gemara ensuite dans les traductions de ces champs-là, qui s'appellent Bet Hashlachin et Bet HaBaal. Le champ qui est arrosé à la main, on l'appelle Bet Hashlachin, qui veut dire, il est fatigué, assoiffé. Et donc, il a besoin d'être arrosé à la main. Le champ qui s'appelle Bet HaBaal, c'est un champ qui est tranquille. Et donc, le mot Baal vient signifier justement le fait qu'il est apaisé, tranquille, qu'il n'a pas soif. Et parce que justement, comme on a dit, c'est un champ qui est arrosé par la pluie en général, ça lui suffit. La Gemara ramène des psukim et du targum sur les psukim qu'on voit que le rapport entre la notion de shlachim et la soif, d'autre part la notion de baal, qui vient signifier, qui fait allusion justement à une situation où quelqu'un il est tranquille et apaisé. La Gemara ensuite cherche qui est le tana de notre Mishnah. Qui est le tana de notre Mishnah qui a donné ici deux chumrot. Premièrement, il a dit ce qui est une fatigue, une grande fatigue comme de l'eau de pluie, est interdit même pour un bet hashlachin, même pour un champ qui a besoin de mon eau, et un champ qui n'a pas vraiment besoin de mon eau, qui se suffit en général de l'eau de pluie, eh bien tout est interdit même si ce n'est pas une grande fatigue. Donc même prendre de l'eau de source, comme on a dit, ça n'a pas été permis, donc il faut deux conditions. Ça n'a été permis que pour un champ qui a besoin de mon eau, et pas pour un champ qui se suffit d'eau de pluie. Deuxièmement, je n'ai pas le droit d'aller me fatiguer davantage en puisant de l'eau. Qui est le Tana qui dit ça? L'Agma fait toute une recherche. Elle propose au début Rabbi Elazar ben Yaakov, la Gemara le repousse, elle ramène encore une autre braïta. Finalement, la Gemara le conclut en disant, on a trouvé un Tana parmi quelques autres, qui est le seul Tana qui peut s'arranger avec notre Mishnah, qui est Rabbi Yehuda. Selon d'autres Tanaïm, on voit soit plus de Chumra que notre Mishnah, soit plus de Kula que notre Mishnah. Il y a ceux qui permettent même un Bet HaBaal, donc un champ qui se suffit d'eau de pluie, on a le droit de l'arroser avec de l'eau de source. Il y a celui qui interdit même pour un bet hashlachin, on n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de source. Bref, la Gemara ramène tous les avis. Finalement, notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Yehuda, qui est justement d'une part, il permet d'utiliser de l'eau de source, mais à condition d'autre part que ce soit un champ qui a vraiment besoin de mon eau, pas un champ qui peut se suffire d'eau de pluie. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. Quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes ou qui arrose ses plantes pendant Shabbat. Quelle avéra il a fait? Quelle melacha? Ça rentre dans quelle melacha, dans quel travail interdit? La Gemara ramène selon Rabba une machloquette là-dessus. Selon Rabba, il a ramolli la terre, c'est comme quelqu'un qui a retourné la terre, donc il est chayav mishum choresh. C'est comme quelqu'un qui laboure. Selon Rabbi Yosef, ça rentre plutôt dans la catégorie de semer. Il fait pousser les fruits davantage, donc il est rentré dans semer. Et la Gemara donne la raison de chacun. D'une part, il a ramolli la terre. D'autre part, il fait pousser, il améliore en fait la poussée des fruits. Donc on pourrait le rentrer dans Choresh, selon Rabba, et dans, selon Rabbi Yosef, dans Zoréa. La Gemara demande, il devrait être hayav sur les deux. La Gemara prouve que quelqu'un qui a fait une melacha qui peut rentrer dans la définition de deux melachot, quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat qui peut rentrer dans la définition de deux melachot, comme quelqu'un par exemple qui a coupé des branches parce qu'il en a besoin et en même temps il veut que le reste pousse mieux, eh bien il est chayav deux fois. Une fois pour Zoréa parce qu'il a fait mieux, il a amélioré donc la suite de ce qui reste sur l'arbre. Et deuxièmement, Mishum Koter parce qu'il a cueilli, il a besoin de ce qu'il a coupé. Donc ici aussi on devrait dire qu'il est chayav deux fois. La Gemara reste en cachia dessus. Donc effectivement il y a lieu de dire qu'il est chayav deux fois. La Gemara ensuite ramène des objections dans un sens et dans l'autre. Finalement la Gemara reste donc sur cette marloketa de Rabba et Rav Yosef s'il est chayav mishum choresh ou mishum zorea. La Gemara essaie de comparer au mélange d'espèces où là-bas on dit celui qui nettoie il enlève les mauvaises herbes, bon, il est chayav. Donc tu vois que c'est une question plutôt de Zoréa, parce qu'on n'a pas de problème de Choresh dans Kilaïm, dans les mélanges d'espèces. La Gemara répondant, ici il y a un autre problème, c'est un problème de Mekayem. Il est en train de laisser dans son champ un mélange d'espèces, et donc pour le fait de laisser dans son champ un mélange d'espèces est interdit en soi, même s'il ne les a pas semés. Donc ça, c'est pour ça qu'il est Chayav là-bas. La Gemara continue à ramener une preuve de notre Mishnah. On voit que pendant la Shemitah, il est permis d'arroser ses champs. Si tu me dis que c'est une question de labourer ou de semer, ça devrait être interdit pendant la Shemitah. Aussi bien tu me dis Choresh que Zoréa, ça devrait être interdit pendant la Shemitah. On ne comprend pas pourquoi notre Mishnah elle a permis d'arroser son champ. La Gemara répond, notre Mishnah, soit elle pense que la Shemitah aujourd'hui n'est que Midé Rabbanan et les Chachamim ont permis ce qui est nécessaire pour maintenir la récolte, pour maintenir ce qui pousse de toute façon. On n'a pas le droit de faire pousser une nouvelle récolte, mais ce qui pousse de toute façon, alors pour ne pas que ça s'abîme, on a le droit de maintenir même en arrosant. Soit la Gemara elle dit que Minatora, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui il y a la Shemitah, mais Minatora. Et simplement, la Torah n'a pas interdit les dérivés des Melachot. C'est pas comme pour Shabbat, on a dit qu'il y a les Toladot qui sont aussi interdits. C'est-à-dire, j'ai une Melacha et tout ce qui en sort, tout ce qui ressemble, rentre dans sa définition et interdit aussi Minatora. Pour la Shemitah, c'est pas la même chose. La Torah n'interdit que semer ou cueillir, mais pas labourer, je veux dire. Labourer, semer vraiment, c'est ça ce qui est interdit. Mais tout ce qui ressemble n'a pas été interdit, donc d'arroser son champ, ça ressemble. Pendant Shabbat, ça rentre dans la melacha de semer, de labourer, mais en ce qui concerne la Shemitah, non, ça ne rentre pas dedans, c'est pas interdit, Minatora. Et donc là, à partir de ce moment-là, les Chachamim peuvent nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qu'ils ont interdit.